Eric, tu veux mettre la première diapo, s'il te plaît? Sinon, j'ai la télécommande. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Fait froid dehors, hein? Mais, et chaud dedans. Ah, je ne parlais pas de la température ambiante. Je parlais dedans. Voilà, nous allons passer une demi-heure ensemble à ouvrir la parole de Dieu. Et j'ai demandé à Noam de nous lire les quelques versets sur lesquels nous allons nous arrêter. Je vais te laisser la place, Noam. J'envoie simplement la diapositive. Voilà. Hop. Donc, nous sommes dans la deuxième lettre de Pierre. Et Noam nous lit les 11 premiers versets.
Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions de dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, la force de caractère, à la force de caractère à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Merci, Noam. Alors, nous abordons donc aujourd'hui la deuxième lettre de Pierre. C'est pas une lettre dont on parle très très souvent. Moi, je ne la connais pas très bien. Et je vais, dans une première partie, donner quand même une courte introduction à cette lettre. Alors, je vais relire par petites portions ce qu'a lu Noam. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue tous ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. L'auteur de la lettre se déclare au verset 1. Je prends cette tournure un peu bizarre parce que certains ont contesté le fait que Pierre soit l'auteur effectif de cette lettre. L'auteur se présente et se déclare au verset 1 comme étant Simon Pierre. Simon, c'était son nom de naissance. Pierre, c'était le nom que Jésus lui avait donné lors de leur première rencontre et qu'il a gardé ensuite pendant toute sa vie. C'est ce qu'indique Jean au chapitre 1, verset 42. Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Il décrit Pierre décrit sa relation avec Jésus-Christ comme celle d'un serviteur et d'un apôtre de Jésus-Christ. On peut noter, pour ceux qui l'ont lu récemment, que dans la première lettre de Pierre, il se présentait uniquement comme apôtre de Jésus-Christ. Dans celle-ci, il se présente d'abord comme serviteur, comme pour mettre en avant le service, et ensuite comme apôtre de Jésus-Christ. La lettre a un auteur, Pierre. Elle a aussi des destinataires. Alors certes, ils sont un peu cachés sous une formulation très large, ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi, ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Alors, qui sont ces hommes, ces femmes qui sont venus à la foi en Jésus-Christ et par Jésus-Christ? Alors, on ne le sait pas exactement. On peut penser, c'est l'hypothèse la plus simple, mais bon, les spécialistes disent qu'elle n'est pas certaine, même si Pierre parle de deux lettres qu'il a écrites. On peut penser que les destinataires de la deuxième lettre de Pierre sont les mêmes que ceux de la première lettre de Pierre. C'est l'hypothèse la plus simple, hein, même si elle n'est pas absolument certaine. Alors, si on se réfère à la première lettre de Pierre, eh bien, les destinataires étaient dispersés dans 5 provinces d'Asie mineure, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. Alors, je suis un peu en panne pour la diapositive. Voilà, la Turquie. Donc l'Asie mineure, c'est cette grosse masse verte, hein, que vous voyez. À gauche, ce qu'on devine, c'est un peu déchiqueté, c'est les limites de la Grèce. Les îles qu'on voit entre la Grèce justement et l'Asie mineure, pour ceux qui connaissent, c'est le Dodécanèse, hein, c'est là où il y a Patmos, par exemple, hein, pour citer des... quelque chose qui est bien connu à cause de Jean. Donc, on est dans cette région, hein, on peut repérer un certain nombre de provinces romaines, mais enfin, c'est pas notre but. En gros, ça se passe là. En gros, ça se passe là. Donc, j'avance. Si ça avance pas, ben vous m'aidez au fond. Voilà, donc on revient sur quelque chose qu'on a entrevu tout à l'heure. Alors, cette incertitude sur les destinataires, elle ne nous empêchera pas, hein, d'apprécier la deuxième lettre de Pierre. La lettre a un auteur, elle a des destinataires. Et en plus, l'auteur formule un souhait pour ses destinataires. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors, le souhait est binaire, hein, il évoque la grâce et la paix. Et ce même souhait binaire se trouve dans la première aussi lettre de Pierre, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. L'originalité de Pierre par rapport à un Pierre réside dans le fait que la grâce et la paix sont données par la connaissance de Jésus notre Seigneur. C'est précisé. Alors, nous gardons ceci en mémoire parce que nous verrons peut-être, mais un autre jour, que le thème de la connaissance, c'est-à-dire le thème en particulier le thème de la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, est un thème important dans la deuxième lettre de Pierre. À ce sujet, Samuel Benetro écrit « La grâce et la paix abonderont » non seulement à partir d'une authentique conversion, mais par une connaissance personnelle, persévérante, volontaire, entretenue, comme va le souligner, dit-il, toute l'Épître. Alors, c'est pour moi l'occasion de dire que lors de ma préparation, eh bien, je me suis assez considérablement appuyé sur le commentaire de 2 Pierre écrit par Samuel Benetro, qui était alors professeur de Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Je ne suis pas un spécialiste, donc je me suis largement aidé de ce commentaire. Nous ouvrons une parenthèse à la fin de cette courte introduction La formulation d'un souhait en direction des destinataires, c'est une pratique constante dans les épîtres du Nouveau Testament, et même dans les lettres profanes de l'époque. Alors, par exemple, au début de toutes les lettres de Paul, on trouve ce même souhait binaire de grâce et de paix, à l'exception des deux lettres de Paul à Timothée où le souhait est ternaire, la grâce, la bonté et la paix. Mais formuler des souhaits pour ses destinataires quand on écrivait à l'époque, c'était la pratique normale dans le début de la lettre. Nous abordons maintenant, après cette courte introduction, une deuxième partie qui va s'appuyer sur les versets 3 à 7 du chapitre 1, c'est-à-dire la suite. Cette partie s'organise autour de deux thèmes. Premier thème, versets 3 et 4, je les relis. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment variés que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Versets 3 et 4. Le premier thème est là, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Nous bénéficions des dons infiniment variés, infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Et ces dons, ils ne font pas l'objet d'une liste précise dans ce texte, mais nous savons que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut. C'est là l'important, tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Et ces dons, ces cadeaux donc, ont un but précis, nous rendre conformes à ce que Dieu est. Alors la barre est placée très haut, nous rendre conforme à ce que Dieu est. La barre est placée très haut, mais elle ne sera pas atteinte par nos propres efforts. Elle le sera parce que nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Ces dons qui nous amènent à refléter les qualités morales de Dieu. Le premier thème, donc, traite de la grâce imméritée que Dieu réserve à tous les rachetés en Jésus-Christ. Vous avez noté que ce premier thème utilise l'indicatif. Il décrit non pas une possibilité, mais une réalité. Et à la fin du verset 4, Pierre, s'adressant à ses lecteurs, affirme qu'ils ont fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Et ce faisant, il amorce, on va le voir, la transition entre les deux thèmes que j'ai annoncés. Samuel Benetro écrit « Porter l'empreinte de Dieu, témoigner de sa nature, demande une rupture, non pas avec le monde lui-même, mais avec la corruption qui y règne, corruption qu'entretient la convoitise humaine. » Un peu plus loin, s'attardant sur l'expression « vous qui avez fui », il écrit que l'expression suggère une référence au mouvement initial par lequel les croyants sont devenus fils adoptifs, appelés à porter la marque de leur relation nouvelle au Dieu Père en rompant avec les convoitises et la corruption. Deuxième thème maintenant, versets 5 à 7. Pour cette raison même, c'est-à-dire en lien avec cette rupture avec les convoitises et la corruption dont on vient de parler, pour ces raisons même, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, et à cet attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. La foi étant acquise, tout ça, on empile sur la foi. La foi étant acquise, puisque la lettre s'adresse à des personnes qui ont déjà reçu tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, Pierre dévoile le deuxième thème. Ah, il n'utilise pas le mode indicatif. Il ne décrit pas plus une réalité déjà acquise. Il utilise le mode impératif et il donne, disons-le, des ordres. Sept précisément. À la fois déjà acquise, il demande de joindre, un, la force de caractère, la vertu dans certaines traductions, puis deux, la connaissance, puis trois, la maîtrise de soi, puis quatre, l'endurance dans l'épreuve, la patience dans d'autres traductions, puis cinq, l'attachement à Dieu, la piété dans d'autres traductions, puis six, l'affection fraternelle, l'amitié fraternelle dans d'autres traductions, puis sept, l'amour. C'est moi qui rajoute les numéros. On verra tout à l'heure qu'il ne fallait pas rajouter de numéros. J'ai voulu les compter, mais il n'y a pas de numéros. Alors, nous voici devant une liste de ce qu'on appelle communément des vertus. Ah, le terme est un peu suranné, un peu désuet. On ne parle plus beaucoup de vertus. On peut parler de qualité, comme dans la version Le Semeur que j'ai lu, ou bien le terme original semble être plus large encore, ou bien de choses, comme dans la version Second en particulier. Bon, je dirais des qualités, hein, si vous voulez bien. Alors, dans cette liste, on semble découvrir une gradation, une progression en forme de chaîne à sept maillons. Chaque élément reprenant le précédent. Alors, je pense qu'il faut voir dans cette énumération en sept points, c'est moi qui ai rajouté les numéros, hein, je l'ai dit, plus une figure de style, qui d'ailleurs est présente aussi dans la littérature profane, qu'un plan personnel en sept étapes successives qui s'enchaînent les unes après les autres dans un ordre précis. À mon avis, donc, cette liste doit être prise d'une manière plus globale, et non pas comme la succession rigide de sept points successifs qui devraient s'empiler dans le bon ordre. Alors, on a quand même toutefois remarqué, je dis maintenant un peu le contraire de ce que je viens de dire, que la foi est présentée comme un préalable, la foi est réellement numéro un, et on peut observer aussi, peut-être que ça a son importance, que l'amour est comme une sorte de couronnement présenté en septième et dernière position. Quant à l'ordre entre le premier et le septième, il n'y a peut-être pas de raison d'y attacher une trop grande importance. Le ton est ferme. Comme déjà signalé, le mode impératif est utilisé. Il est renforcé en début de liste par l'expression « Faites tous vos efforts ». Alors, nous n'allons pas nous arrêter sur chacune des sept qualités citées dans ce passage. D'abord, le temps nous manquerait pour cela. Nous noterons toutefois que l'une d'entre elles, la connaissance, est citée. Et connaissance dans quel domaine ? Bah, cela n'est pas dit, mais à mon avis, ces domaines sont également variés. Et le souhait formulé par Pierre pour ses lecteurs, le souhait dont j'ai parlé tout à l'heure, mentionnait déjà la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et mieux, si nous anticipons un peu sur le verset 8 qu'on va lire dans quelques instants, nous voyons que les qualités citées nous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Alors chacun comprendra que connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, ce qu'il est et ce qu'il fait, constitue un domaine que nous devons explorer tout au long de notre vie. La deuxième partie se terminant, il est temps de choisir, même un peu tard, diront certains, Il est temps de choisir un titre pour la prédication. Alors, je propose un titre qui inclut les deux thèmes rencontrés dans cette deuxième partie. La plénitude de la grâce, c'était le premier thème, et un indispensable effort, c'était le deuxième thème. Alors, pour dire les choses de manière simple et je l'espère pas trop réductrice, ce titre évoque à la fois la part de Dieu, avec la plénitude de la grâce, il nous donne tout ce qui nous est nécessaire, et la part du disciple avec un indispensable effort. Les deux thèmes, deux parties dans le titre. Bon, le thème de la plénitude de la grâce est facile à intégrer dans notre réflexion, hein. On aime bien recevoir, c'est normal. Celui d'un indispensable effort est, au moins pour certaines personnes, un peu moins facile à intégrer. Samuel Benetro résume les réticences de ces personnes en écrivant « La présence d'un catalogue est responsable de l'impression de piété moralisante que l'Épître laisse à plusieurs. Impression de piété moralisante qui peut être encore accrue, c'est moi qui l'ajoute, par le fait que de telles listes de qualités, de tels catalogues de qualités existaient aussi, il me semble que je l'ai déjà dit, dans la littérature philosophique profane et dans certains écrits rabbiniques. Alors, pour en finir avec cette possible impression de piété moralisante, possible impression, je cite à nouveau Samuel Benetro qui écrit la deuxième lettre de Pierre, nous livre ici un projet de progression dans la foi qui n'est ni du légalisme, ni du moralisme, mais une manière conséquente d'accueillir les grâces reçues et de s'avancer vers la grâce ultime, celle du royaume qui est évoquée dans la fin du passage. Nous abordons maintenant la troisième partie qui va donner un éclairage, troisième et dernière partie, qui va donner un éclairage sur cet indispensable effort dont il est parlé. Pour cela, je relis le passage qui va du verset 8 au verset 11. Car si vous possédez ces qualités, celles qu'on a énumérées tout à l'heure, et si elles grandissent en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts, c'est moi qui le rajoute, pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez pas. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ce passage, Pierre va examiner l'implication dans notre vie des qualités dont il a donné la liste. Alors, en comparant les versets 8 et 9, là au début de ce que je viens de lire à l'instant, on comprend qu'on peut posséder ces qualités ou qu'elles peuvent nous faire défaut. Autrement dit, qu'on peut les avoir ou pas. Dans le premier cas, si nous les possédons, et si en plus elles grandissent sans cesse en nous, ces qualités ont deux apports positifs dans notre vie. Elles nous rendent actifs, elles nous permettent de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on comprend, je n'entre pas dans les détails parce que c'est compliqué pour moi, on comprend en lisant les commentaires que ce verset 8 est assez difficile à traduire. Il y a du conditionnel dans ce que j'ai lu, si nous les possédons, si elles grandissent en nous, alors que certains traduisent sans ce conditionnel Donc, j'ai lu le verset dans la version Sommer, qui est ce matin. Voici ce que Samuel Benetro écrit à ce sujet. Pour résumer finalement une traduction qui rend compte un peu de tous les points de vue, l'idée exprimée nous paraît être la suivante, dit-il. Le chrétien dispose de multiples richesses spirituelles, dons divins et fruits de son engagement résolu. Et ces richesses, de par la connaissance du Christ, de qui tout procède, ne manquent pas, ces richesses ne manquent pas de faire de lui un être dynamique et fécond. Dans le deuxième cas, si ces qualités font défaut à quelqu'un, eh bien le texte que nous avons lu dit qu'il est comme un aveugle. Il ne voit pas. Certaines traductions suggèrent la myopie au lieu de la cécité. Bon, ça revient à peu près au même, hein, parce que les anciens ne faisaient pas toujours la différence entre aveugle et myope. En note, dans une de ces notes, la version de Sommer indique familièrement ni aveugle ni myope. Elle parle de familièrement de ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire qui distinguent uniquement les intérêts immédiats et terrestres. La fin du verset 9 est un peu troublante. Celui qui a ces qualités, celui à qui ses qualités font défaut, celui qui n'a pas ses qualités, a oublié qu'il a été purifié de ses péchés autrefois. Alors la cécité et la myopie peuvent donc parfois se doubler d'amnésie. Samuel Benetro écrit « Mettre en oubli ce pardon initial d'un passé de ténèbres, c'est non seulement mépriser la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais c'est aussi négliger l'appel à la vie pieuse qui y était inscrit. » Et dans le verset 10, je vais le relire un verset parce que c'est central dans cette première idée qu'on trouve dans 2 Pierre. Pierre va interpeller ses lecteurs, ses frères, dit-il, pour renouveler, il l'a déjà dit, mais il le renouvelle, ses exhortations à l'effort. 2 Pierre, verset 1, verset 10, « C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque vous avez été appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. » Il ajoute d'ailleurs, « Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. » Je reviendrai un peu sur cet aspect-là dans 2 secondes. Pierre rappelle à ses lecteurs qu'ils ont été appelés et choisis par Dieu. Il manie donc devant eux deux notions théologiques consistantes, la vocation, Dieu nous a appelés, et l'élection, Dieu nous a choisis. Il passe sur ces notions sans s'y arrêter. Nous ferons de même. L'explication détaillée des deux notions étant pour moi difficile. Nous noterons avec Samuel Benetro que dans le Nouveau Testament, les deux notions, vocation et élection, peuvent être associées. Parfois pour les différencier. Parfois pour les unir au point qu'elles paraissent se recouvrir. Et il ajoute qu'à la réflexion, on peut dire qu'il s'agit, je le cite, de l'unique décision de Dieu, décision en Dieu désignée par le terme d'élection, mais décision se concrétisant ensuite dans l'appel adressé à l'homme, la femme, l'homme générique. Alors, plus concrètement, il nous faut remarquer que la considération de la vocation et de l'élection est l'occasion pour Pierre de renouveler ses exhortations à redoubler d'efforts pour éprouver, je l'ai dit, dans toute leur force, les effets de cet appel et de ce choix. Et cela parce que ses lecteurs, donc nous-mêmes aussi, ont été appelés et choisis. Et Pierre renforce le développement qu'il avait donné précédemment dans la deuxième partie. développement qui nous avait alors conduit à choisir pour la prédication le titre « La plénitude de la grâce », certes, mais un effort indispensable par ailleurs. J'ouvre maintenant, nous approchons de la fin, une parenthèse, parce que j'ai signalé qu'à la fin du verset 11, Pierre ajoute, en parlant du redoublement des efforts, que si nous agissons ainsi, nous ne tomberons jamais. On est dans une parenthèse là. Pierre dit-il à mot couvert qu'on pourrait perdre son salut. Pour ma part, je crois, comme beaucoup d'autres chrétiens me semble-t-il, qu'on ne peut pas perdre son salut, lequel est garanti par la personne et l'œuvre de Christ, et non pas, fort heureusement, par les efforts même redoublés que nous pourrions faire. Ça, c'est fin de parenthèse. Donc après, c'est la dernière diapositive. Hop, elle est parti. Cette troisième partie se termine sur la vision grandiose des portes du royaume éternel de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Portes qui seront grandes ouvertes. Dernier verset. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors cette ouverture toute grande n'est pas la conséquence directe des efforts redoublés auxquels Pierre a exhorté ses lecteurs. On est loin, cela va sans dire, de ce qui pourrait s'apparenter à un salut par les œuvres, ou même à une théologie de la récompense. Et en parlant d'une causalité éventuelle entre les efforts et la récompense, Samuel Benetro écrit « Il n'y a aucune raison d'affirmer une causalité stricte, mécanique, encore moins une proportionnalité, dit-il, puisque l'entrée dans le royaume n'est pas une grandeur mesurable. Certaines traductions font d'ailleurs ressortir que l'ouverture toute grande des portes du royaume éternel est un don, un cadeau. C'est un peu le cas de la traduction seconde. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée, j'insiste sur accordée, ou de celle que propose Samuel Benetro quand il a retraduit le texte original pour écrire son commentaire. C'est ainsi en effet que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou encore même celle plus proche de nous de ceux qui la connaissent, de la traduction d'Arby, car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. Retenons que l'ouverture toute grande des portes du royaume éternel est un don, un cadeau. Cette entrée sera généreusement accordée et richement donnée. Amen. Nous allons prier et puis je reprendrai en 30 secondes deux courtes informations. Nous te remercions Seigneur pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Merci Seigneur parce que nous bénéficions des dons infiniment précieux que tu avais promis. Merci pour le grand salut en Jésus-Christ que tu offres à tous les hommes. Merci parce que c'est toi qui appelles et toi qui choisis, de sorte que nous n'avons qu'à accepter par la foi le grand sacrifice de Christ pour passer des ténèbres à la lumière. Notre salut étant maintenant acquis, tu places devant nous, Seigneur, un chemin de sanctification et tu nous demandes de joindre à la foi les qualités spirituelles qui nous permettront de refléter un peu de ta gloire. Tu nous proposes, Seigneur, un projet de progression dans la foi. Pour cela, Seigneur, nous ne comptons pas sur nos forces propres et nous te prions que tu nous précèdes sur le chemin de sanctification que tu ouvres devant nous. Que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies dans cet indispensable effort que tu attends de nous. Nous te prions que tu nous fasses la grâce de connaître chaque jour davantage notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, ce qu'il est et ce qu'il fait, et cela jusqu'au jour béni où les portes de ton royaume éternel seront largement ouvertes devant nous. Amen. En 30 secondes, deux courtes informations. La première, c'est que Dieu voulant, je donnerai une prédication en février et une autre en mars, et sauf si une idée meilleure venait à se présenter, j'ai le projet de puiser à nouveau dans la deuxième lettre de Pierre pour choisir les deux sujets correspondant à ces deux prédications. Deuxième information, le mercredi soir, nous étudions avec François la lettre aux Hébreux. Et mercredi dernier, nous sommes arrivés au chapitre 6. Chapitre difficile, enfin, chapitre qui comporte une portion difficile plutôt, à certains endroits. Et il m'a semblé, alors je l'ai dit à la fin de la réunion, que le début de 2 Pierre que nous avons lu aujourd'hui et d'Hébreux 6 que nous avons lu mercredi dernier étaient deux textes qui se faisaient dans une certaine mesure écho l'un à l'autre. Alors pour ceux qui seraient intéressés, il y a peut-être matière à réflexion pour voir l'interaction entre Hébreux 6 et le début de la deuxième lettre de Pierre. Voilà, nous allons en rester là. Bonne journée et bonne semaine à tous.